en quatre jours?
C'est que là, l'intervenant scolaire nous appelle. Appelle le 911.
Ouais.
Les policiers vont débarquer.
Mais on sait c'est qui, ce jeune-là?
Oui, parce que c'est l'intervenant scolaire.
OK, d'accord. Dans ces cas-là, on le sait c'est qui.
Oui, on va savoir qui est la victime, qui est le fautif.
Dans le passé, ce que vous auriez fait, c'est que vous auriez procédé à une mise en accusation.
Exactement.
Qui aurait pris des mois et des mois pendant lesquels le jeune n'est toujours pas reconnu coupable et pendant lesquels les images continuent de circuler.
Exactement. Bien, on essayait quand même de réduire le plus possible la distribution des images, mais c'est sûr que si on n'a pas saisi tous les appareils, si les jeunes ou les parents ne sont pas rencontrés, il y a une partie qu'on contrôle pas qui fait que ce délai-là est plus long. Là.
Okay.
Donc, les impacts sur les victimes est plus important.
Là, je m'adresse à l'avocat. Il y a des cas où le jeune, c'est de la sensibilisation, il n'a pas compris, il n'a pas compris les impacts. D'ailleurs, je disais que prendre soi-même en photo, c'est de la production de matériel pédopornographique. Il n'a pas compris ça, lui. Ou il n'a pas compris que de diffuser l'image de sa blonde, c'est aussi de la pédopornographie. Bon, là, je le sensibilise. Ça se peut que ça soit un petit vaurien. Comment on fait la distinction entre les deux?
Oui, bien en fait, c'est intéressant votre question parce que ça m'amène à parler du taux de récidive qui est de moins de 3 % pour l'ensemble des jeunes qui ont bénéficié de la procédure sexto. Donc, les policiers, dans le cadre de la mesure de rencontre de sensibilisation, vont inscrire une note au Centre de renseignement policier du Québec. Il n'y a pas d'incidence au niveau légal. C'est pas un antécédent judiciaire. C'est simplement pour que les services policiers puissent identifier un jeune qui aurait déjà bénéficié de la mesure sexto. Donc, un jeune qui récidiverait pour une seconde fois, après avoir bénéficié du programme, ben là, on le saurait, puis on pourrait agir différemment auprès de lui.
OK,
auprès
d'elle. Mais est-ce que ça se peut qu'il ne récidive pas? C'est la première fois qu'il le fait, mais il est malveillant.
Oui.
Oui.
Oui, puis c'est des critères qui sont quand même établis entre le DPCP et les corps policiers. C'est que si après l'évaluation, on se rend compte qu'il ne répond pas aux critères pour être sensibiliser, mais plutôt on devrait aller vers une voie judiciaire. C'est ce qu'on va faire.
On le voit souvent, M. Ferrandez, au niveau de la sextorsion, où là, il y a un niveau de gravité qui est beaucoup plus important que du partage mutuel, par exemple, d'images intimes entre conjoints ou un des deux.
Ouais.
Conjoint décide de montrer une image de façon tout à fait irréfléchie, impulsive. On ne se situe pas dans le même ordre d'idée. Ce n'est pas le même genre d'intervention. Même chose si on a, par exemple, une diffusion de masse. Exemple, on a l'application AirDrop. Maintenant, c'est facile. Dans la cafétéria, on AirDrop une image ou une vidéo. Puis là, il y a tout d'un coup 50 personnes qui la reçoivent. C'est sûr que quand on a un partage de masse de cette nature-là, ça milite beaucoup plus en faveur de l'orientation vers un acte qu'on va considérer malveillant. Et ce, même si le jeune n'a jamais bénéficié de la procédure sexto auparavant. Là.
Mais ce qu'on entend, c'est qu'il n'y en a pas tant que ça.
Bien, justement, je voulais renchérir, c'est que depuis le déploiement qu'on a fait au SPVM, on a déjà 36-37 dossiers sexto qui sont entrés via le mode d'intervention sexto. Et un petit peu plus que la moitié est toujours malveillant.
Ah, la moitié?
Après analyse des situations. Okay. Donc, on mise beaucoup sur le fait que ça va changer. Les chiffres vont rejoindre ceux au niveau provincial.
Qui sont juste 3-4%.
Non, qui sont de peut-être 60 quelques pourcents impulsifs, 40% malveillants.
Là, 3%, disons, ça, c'est la récidive.
Oui, c'est ça.
Okay. Fait que 60% impulsifs, 40% malveillants.
Ça devrait être, on devrait rejoindre la tendance provinciale après, mettons, un bilan d'une année. Là.
Est-ce que je peux vous inviter à faire plus de communication? Parce que moi, j'ai appris ce matin que, en lisant le dossier, que c'est très grave. C'est-à-dire que je comprends bien que de diffuser la photo de sa blonde pendant avec qui tu fais l'amour, là, on est dans un cas où Logan Mayou, tout le monde a fini par comprendre que c'était grave, très grave.
Mm-hmm.
Mais de se prendre soi-même en photo, une jeune fille qui se prend en photo puis qui l'envoie à son chum, peut être accusée de production de matériel pornographique.
Généralement.
Oui, vas-y.
Oui, donc, généralement, ces jeunes-là, évidemment, c'est pas le résultat qu'on va obtenir. Parce qu'il y a toujours une évaluation qui est faite, entre autres, lorsqu'un dossier est soumis, par exemple, par un service policier, ça concerne une jeune fille ou un jeune garçon qui a pris une image d'elle-même et l'a transférée. Ces jeunes-là, là, depuis l'avènement de Sexto en 2016, on a clarifié leur statut. Et pour nous, il s'agit de victimes lorsqu'elles ont été victimes de repartage de ces images-là.
Okay.
Donc, oui, c'est criminel, techniquement.
Mais c'est pas traité comme ça.
Il faut avoir une intention criminelle. C'est pas juste le fait. C'est pas juste la tout. Ça prend du mens rea. Ça prend de l'intention criminelle. La jeune fille de 14-15 ans qui envoie ça, elle a-tu dans l'idée de faire un acte criminel? C'est pas notre évaluation de la situation.
Okay.
Mais là, c'est de l'auto-exploitation qui engendre des enquêtes criminelles.
Pardon, la nuance, je ne comprends pas.
Bien, c'est que à partir du moment que l'image est distribuée, ça peut amener une redistribution de ces images-là par la suite. Et là, bien, peut-être ça va être un mode d'intervention sexo si ça s'est passé dans une école, okay, ou que l'intervenant le souligne. Mais un va avec l'autre. L'auto-exploitation, okay, amène souvent la redistribution de ces images-là.
OK. Le volume d'images, le volume de personnes, des jeunes, parce que là, on est content de voir qu'il n'y a pas de récidive. Là où le programme Sexto a été implanté, c'est excellent. Par contre, quand on regarde les chiffres à la grandeur du Québec, c'est quand même 1415 dossiers en 2016. Et 4712 jeunes qui ont été rencontrés dans toute la province.
Oui, tout à fait. Depuis 2016, on a eu 1400 quelques dossiers. On comprendra qu'en 2016, il y avait seulement Saint-Jérôme de formé, ouais, Sexto. On était à l'étape du projet pilote. Puis à chaque année, évidemment, des partenaires au niveau policier scolaire s'ajoutent au projet Sexto. Et entre autres, c'est ce qui peut expliquer l'augmentation du nombre de dossiers. Seulement l'année dernière, on a eu 416 dossiers Sexto traités. Et ça impliquait plus de 1500 jeunes.
OK, c'est pas une augmentation du nombre d'images. C'est une augmentation du déploiement du système.
Exactement, du nombre de dossiers qu'on a traités via, en fait, la procédure Sexto qu'on a mis sur pied.
Bon, ben,
faut pas oublier qu'il y a plus de dénonciations qu'il y en avait aussi, donc les chiffres aussi peuvent augmenter suite au nombre de dénonciations.
Messieurs, bravo pour votre travail. Merci beaucoup d'être venus nous voir.
Merci à vous.
On espère que ça va s'améliorer. On sent que ça va s'améliorer.
Oui.
Merci. Alors, c'était le commandant Marco Breton et l'avocat Maxime Ouellet. On s'en va à la pause. Au retour, la chronique de Marie-Ève Tremblay. On va parler de d'autisme qui travaille. D'autisme.
Le menu du midi. Votre émission d'information.
Pourquoi on ne prendrait pas cette année-là de secondaire 1 de révision, puis qu'on ne ferait pas de la matière vue normalement en secondaire 2, puis juste décaler, puis comme ça, on pourrait garder nos 50 secondaires, puis passer directement à l'université.
On pensait que ça serait le fun, Facebook, puis on se lance là-dedans sans trop réfléchir, puis là, après, on s'aperçoit que sur Facebook, il y a de l'intimidation, il y a de la fraude, il y a des disputes, il y a des complots. C'était le fun, Facebook, au début, hein? Ben là, ça l'a encore, mais ça l'est un peu moins. Le meilleur russe du repêchage, Ivan Demidov, son contrat dans la KHL vient échéant en 24-25.
Okay,
donc, l'été prochain. Donc, c'est comme si on repêchait un joueur de la Ligue canadienne de hockey. Mettons que le Canadien repêchait Caden Lidstrom et qu'on le retournait dans les juniors, ben, il ne serait pas disponible avant la saison 25-26.
Okay.
C'est la même chose pour Ivan Demidov. Puis, en plus, il a exprimé son désir de venir jouer en Amérique du Nord. Ça ne restera pas foiré à la maison à la TV.
C'est à ça que tu pensais, là.
Du lundi au vendredi dès midi.
Du 2 avril au 14 mai, dans nos trois restaurants Bon Voyage de la région, les enfants mangent pour seulement 2,50 $ tous les soirs. Oui, 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 t'as bien entendu. Le menu pour enfants est à seulement 2,50 $. En faisant un dessin, votre enfant pourrait vous faire gagner très gros. Un forfait pour 4 personnes à l'Océanique de Rimouski pour la saison 2024-2025 ou un cadeau mystère visible seulement dans un de nos trois restaurants. Vous êtes curieux, là, hein? Les restaurants Bon Voyage, vos restaurants familiaux par excellence.
Un enfant participant à la deuxième commande de principal, le concours est valide tous les jours.
Bonjour, ici Gilles Blacquer, directeur des Grands Amis de Rimouski. Le 20 avril prochain se tiendra au Centre des congrès de Rimouski le rendez-vous de l'action bénévole. Cette journée présentée sous forme de salon accueillera plus de 45 organismes communautaires. Venez rencontrer ces gens de cœur afin d'apprendre davantage sur le service et leurs missions respectives. Car s'impliquer dans sa communauté, c'est aussi se faire du bien à soi-même. De plus, Jean-Marie Lapointe sera des nôtres avec sa conférence « Le plaisir de bénévoler ». Alors, c'est un rendez-vous le 20 avril prochain de midi à 17h et c'est gratuit.
Ne manquez pas la toute nouvelle chronique de Sébastien Desjardins de H. Grégoire Rimouski. Démystifions la vente de véhicules usagés et tout ce qui l'entoure. Il a de bons conseils pour vous. Soyez au rendez-vous tous les vendredis à 9h15. Une présentation de H. Grégoire Rimouski.
CFIX FM 93. Vos idées en liberté. Faites-vous votre opinion. Des animateurs de talent, des chroniqueurs pertinents. Vos idées en liberté avec CFIX FM 93.
Au réseau Cogeco, vous écoutez sans réserve.
Sans réserve.
Parce qu'il y a toujours une solution.
Voici Marie-Ève Tremblay.
Bonjour Marie-Ève.
Bonjour Luc Ferrandez.
Dans quel coin t'es allée chercher de l'information?
Ben en fait, c'est le mois de l'autisme, le mois d'avril, puis j'avais pas nécessairement prévu l'aborder, en parler, mais j'ai reçu le message d'un auditeur qui, lui, avait envie de m'en parler. Je l'ai téléphoné ce matin sans trop savoir à quoi m'attendre et je suis, Luc, tombée sous le charme de Mathieu Caron. Il a 24 ans, il est de Sherbrooke, il a un trouble du spectre de l'autisme, il a aussi le syndrome de la Tourette. Lui, ce qu'il vit surtout, c'est de l'hypersensibilité, difficulté à se concentrer quand il y a du bruit. Mais il mène une foule de projets, là. Il est très, très inspirant. Lui, il est ambassadeur de l'Office des personnes handicapées du Québec. Il y a aussi des entrevues, c'est lui, c'est son projet, des entrevues avec des personnalités publiques au profit de Autisme Estrie. Il appelle ça les entrevues atypiques. C'est filmé, c'est ultra agréable à regarder. Il y a aussi un nouveau travail depuis 3 ans. Il est dans un café à Sherbrooke. Mathieu, lui, avant, il était étudiant en informatique et pendant la pandémie, son programme a été coupé. Ensuite, il s'est promené d'un boulot à l'autre jusqu'à ce qu'il attire l'attention d'une jeune entreprise à Sherbrooke. C'est le Géogène qui est un micro-torréfacteur. C'est un café. Il a le titre d'aide à la production. Il emballe entre 500 et 1000 kilos de café par semaine. C'est pas rien. Et c'est pas une entreprise. Et ça, c'est là où c'est intéressant. Ce n'est pas une entreprise spécialisée dans l'embauche de personnes qui vivent avec des limitations. On écoute Mathieu Caron.
Ils se sont adaptés à moi en fonction du bruit. Admettons, ils sont compréhensibles sur le fait que je dois porter des écouteurs pour écouter de la musique pour rester concentré, premièrement. Deuxièmement, ils m'aident aussi pour m'accommoder. Ils sont à mon écoute. J'ai jamais vu, par exemple, un employeur comme mon employeur qui s'appelle Guillaume du Géogène. Qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il a pris des cours sur l'autisme il y a 2 ans pour essayer de mieux se mettre dans ma peau.
Eh oui, hein, un employeur, eux, ils ont été attirés par son intérêt à travailler, sa motivation, puis se sont dit, les propriétaires, ben on va s'informer pour savoir comment s'adapter à lui, puis pouvoir mettre des mesures en place qui conviennent à sa réalité. Tu sais, il parlait des écouteurs, c'est un peu ça, il est dérangé par les bruits, ben lui, il a le droit d'écouter de la musique pendant qu'il travaille. Puis je te dis, là, il a tellement l'air heureux, Mathieu Caron. Oui. Oui, à plusieurs reprises, ce qui est dommage dans son histoire, ce qu'il m'a raconté, c'est qu'on a souvent douté ses capacités. Il y avait d'ailleurs une professeure qui lui avait dit qu'il n'y avait pas ce qu'il fallait pour accomplir des projets. Comme, non, toi, là, tu peux pas, tu n'y arriveras pas. Alors que lui, il voyait la réalité là, vraiment autrement. Pour lui, son message, là, c'est différent, mais c'est un être humain. Sa condition, pour lui, là, c'est une manière de vivre. Et j'en ai parlé avec Samuel Beaupré. Lui, il est partenaire avec le Guillaume qu'il mentionnait, partenaire d'affaires pour le Café Géogène. C'est lui qui a eu l'idée de l'engager. Ça faisait partie des valeurs de l'entreprise. Ils ont eu à s'adapter, mais ils n'ont aucun regret. On écoute Samuel.
Mathieu a des qualités que d'autres employés ont moins, mettons. Au moment où est-ce qu'on l'a engagé, ça faisait du bien d'engager une personne qui a peut-être des limites fonctionnelles, mais qui était motivée, qui était volontaire, qui était mobilisée. T'sais, ça fait du bien dans une heure où est-ce que des fois les gens se cherchent, les gens sont pas certains, ils lâchent pas de carrière. Il y a d'autres questionnements de haut niveau, là. Des par rapport aux besoins de haut niveau. Fait que, d'avoir ma fille dans l'équipe, c'était rafraîchissant. Puis à cette époque-là, je me rappelle parce que c'est moi qui avais comme un peu lancé l'idée de l'engager, ben je me disais que j'en aurais pris d'autres en même temps.
C'est-tu pas agréable à entendre ça, Luc? Parce qu'on se dit, il donne une chance à Mathieu de s'intégrer dans un milieu de travail, mais l'entreprise aussi en tire profit. Ben oui. Puis il dit, il y a une attitude irréprochable. Il veut bien faire les choses. Il veut s'améliorer. C'est l'employé modèle. Puis il dit, même au début, il arrivait une heure d'avance. une heure avant de commencer. On lui a dit, tu peux arriver quelques minutes avant. Ça va être correct. Mais de là aussi, l'adaptation. Et Samuel me disait aussi que c'est environ 10% des personnes autistes qui sont aptes au travail, qui travaille. Donc, il y a un Mathieu sur 10 qui travaille. Et ça m'a donné l'idée d'inviter Patricia Paquin. Patricia Paquin, c'est notre collègue animatrice à Rythme FM. Elle est très engagée, très impliquée dans la cause de l'autisme de Benjamin Rochette, oui. Qui est acteur. On peut le voir dans Star de son fils. Et elle a aussi ouvert avec son conjoint, Louis-François Marcotte, deux cafés sur la rive sud de Montréal qui emploient des personnes qui vivent avec des limitations, notamment le trouble du spectre de l'autisme. Elle est au bout du fil. Bonjour, Patricia.
Bonjour.
Qu'est-ce que ça te fait quand t'entends des histoires comme celle de Mathieu Caron?
Aïe, 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 ça me remplit le cœur de bonheur. Parce que effectivement, souvent, bon, c'est sûr que moi, mon Benjamin a 22 ans. Fait que, tu sais, je pense à ces jeunes-là qui ont envie de faire une différence dans notre société. Ils veulent pas rester chez eux à jouer aux jeux vidéo puis à être juste là